Bienvenue et merci d'écouter les lettres de Gaza. Les lettres de Gaza, une émission de Radio Tiroir, la radio du Théâtre du Tiroir, pour donner la parole aux habitants de Gaza qui attendent un cessez-le-feu et la paix sous les bombes. Aujourd'hui, la lettre numéro 76, reçue le 22 mars 2024, une lettre de Hossam El Madoun, notre ami comédien, prisonnier à Gaza. Hossam El Madoun est comédien à Gaza et responsable d'un projet pédagogique dans les écoles. Il écrit ce 22 mars. Pourquoi ? Pourquoi cela nous arrive à moi, à ma famille ? Tenez, écoutez, voici une histoire de Gaza. J'ai 41 ans. Je suis né à Gaza, où j'ai vécu toute ma vie. Je me suis toujours occupé de mes propres affaires, me concentrant sur ma carrière. Je n'ai jamais participé à une quelconque activité politique, pas même à des discussions politiques ou à des bavardages. J'ai passé ma vie à dénoncer la violence. J'ai travaillé dur jusqu'à ce que je construise ma propre maison. Je me suis marié, j'ai eu 3 filles, dont l'aînée a 14 ans et la plus jeune, 4 ans et demi. Ma femme a également reçu une bonne éducation. Elle travaille dans une banque. Ce génocide a commencé. Alors je suis resté chez moi, dans le quartier de Rimal à Gaza. Je n'ai pas de famille dans la ville de Gaza, pas plus que ma femme. La nuit dernière, il y a eu des tirs nourris et des bombardements autour de ma maison. J'ai emmené ma femme et mes filles dans la cuisine, loin des fenêtres. Nous nous sommes allongés, des balles ont frappé les fenêtres et les murs. Mes enfants et ma femme criaient. J'ai essayé de les calmer. Je n'avais pas moins peur. J'avais aussi envie de crier, moi. Les tirs ont commencé à l'aube et se sont poursuivis jusqu'à 9 heures du matin le lendemain. Puis ils ont diminué d'intensité et soudain, on frappe à ma porte. Qui est là ? Qui est là ? Comment peut-on frapper à notre porte ? Bon, ne pas ouvrir, ce n'est pas un choix. Ouvrir, aussi, c'est un risque. Les coups ont continué et continué. Alors j'étais encore réticent. Finalement, je suis allé à la porte. J'ai demandé de l'intérieur. « Qui est là ?» Et une voix, larmoyante, a dit « Ouvrez, s'il vous plaît, ouvrez !» C'était un homme qui pleurait d'une voix brisée, la voix brisée d'un être humain brisé, une voix qui portait la douleur et l'agonie. J'ai demandé à nouveau « Qui est-ce ? Qui est là ? » Il m'a répondu « Ouvrez, s'il vous plaît. L'armée israélienne m'a envoyé vers vous. J'ai un message. » Alors j'ai paniqué. Si je n'ouvre pas, les Israéliens pourraient venir et Dieu sait ce qu'ils feraient. C'est en tout cas un habitant de Gaza qui parle. Alors j'ai ouvert la porte. Il y avait cet homme d'environ 50 ans. Presque nu, seulement en sous-vêtements, les mains menottées dans le dos, tremblant de peur et de froid. Il m'a dit « Vous et tous les hommes de plus de 16 ans, vous devez descendre, aller vers le char blindé à gauche de la rue, et toutes les femmes et tous les enfants de moins de 16 ans doivent descendre et aller à droite de la rue. Vous devez descendre dans la rue, nu, à l'exception de vos sous-vêtements. Sinon, ils vous considéreront comme une menace. Ils vous abattront sur le champ. » Pendant quelques secondes, je suis resté figé. Figé par le choc, figé par la peur. Figé par un million de pensées et d'idées qui me traversaient l'esprit, mais que je n'arrivais pas à garder en tête. Devant moi, l'homme pleurait. « S'il vous plaît, accélérez.
Ils ne m'ont donné que 5 minutes pour finir ma mission. Nous devons descendre ensemble, ensemble. »
Comme un robot, je suis entré.
J'ai raconté à ma femme ce qui se passait et ce que nous devions faire.
J'étais très neutre. Mes enfants pleuraient de peur, comme ils l'avaient déjà fait toute la nuit, et je ne pouvais rien faire pour les calmer. Je leur ai raconté calmement le message et je me suis dirigé vers la porte. Je me suis retourné vers ma famille en me demandant si ce serait le dernier regard, la dernière fois que je les verrais. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Soudain, je ne ressens plus rien. Et je me dis, va, va, va les serrer dans tes bras, va les embrasser. Je m'entends dans ma tête. Tandis que mon corps se dirige mécaniquement vers la porte et la quitte. Alors que j'étais hors de vue de ma femme et de mes enfants, j'ai enlevé mes vêtements. Je suis descendu avec l'homme nu et menotté. Nous sommes descendus sur le côté gauche, là où il y avait plusieurs chars et plusieurs véhicules blindés. Ah non, non, il n'y en avait pas qu'un seul. Il y en avait plusieurs. La rue était pleine de soldats armés. Il y avait beaucoup de décombres. Je n'avais pas réalisé combien de maisons avaient été détruites. C'était comme une descente en enfer. Un soldat israélien, parlant couramment l'arabe, nous a demandé de nous arrêter. Alors je me suis arrêté. Il m'a dit de m'allonger. Visage contre le sol. C'est ce que j'ai fait. Il m'a dit de me mettre les mains sur mon dos. C'est ce que j'ai fait. Tout cela pendant que d'innombrables fusils étaient pointés sur moi et sur mes autres voisins nus qui étaient arrivés avant moi. Soudain, le soldat israélien s'est approché de moi, m'a tiré brutalement les bras, les a attachés ensemble derrière mon dos et m'a bandé les yeux avec un morceau de tissu. Il me dit de me mettre debout. Ce n'était pas facile dans ma position. Le soldat m'a aidé en me donnant un coup de pied dans la cuisse. Cela m'a aidé, oui. La douleur m'a obligé à sauter. Ils m'ont emmené quelques mètres plus loin, m'ont mis à genoux, face à un mur. Ils ont commencé à me poser des questions sur moi, sur ma famille, sur les activités des hommes armés dans la région, sur les tunnels. Chaque fois que je répondais « je ne sais pas », j'étais battu. Que pouvais-je faire ? Je ne savais pas. Au bout de 20 minutes, ils m'ont fait tourner face à un petit drone qui volait près de mon visage. Le drone a scanné mon visage, puis il s'est envolé. Ils m'ont ensuite remis à genoux face au mur. Des petits cailloux m'ont griffé les genoux. Une petite pierre est presque entrée dans ma peau, sous mon genou. Quand j'ai essayé de bouger un peu pour l'éviter, cela n'a servi à rien. J'ai ressenti encore plus de douleur. Oh, ce n'était pas la seule douleur. Ils m'avaient menotté les mains avec des bandes de plastique, des bandes très serrées, pour que je ne sente pas le sang atteindre mes mains. Mon dos était très froid, très douloureux. Soudain, la douleur s'est propagée à toutes les parties de mon corps. Et puis, j'ai eu très froid, partout. Une pluie fine s'est mise à tomber. J'ai senti les gouttes d'eau sur ma tête et sur mon dos d'abord, puis tout mon corps a été mouillé. Je ne pouvais pas bouger. Il faisait très froid. Je commençais à me sentir gelé. Je ne sais pas vraiment. En fait, je ne me souviens pas si j'ai pleuré pendant ces heures face au mur. J'essaie de me rappeler à quoi je pensais pendant ce temps, mais honnêtement, je ne m'en souviens pas. Ai-je pensé à la mort ? Ai-je pensé qu'ils allaient m'arrêter ou m'exécuter ? Ai-je pensé à ma femme, à mes filles ? Ai-je pensé à ma maison, à mes amis, à mon travail, à ma vie passée ou à mon avenir ? Sincèrement, je ne sais pas. Peut-être ai-je pensé à tout cela et à bien d'autres choses encore, mais je ne m'en souviens pas. À 16h, ils m'ont dit de me lever. Et Dieu seul sait quel effort et quelle douleur il m'a fallu pour me lever. J'ai d'abord jeté mon corps sur le côté, puis j'ai lutté pour me mettre sur le dos.
Puis j'ai réalisé que cela ne m'aidait pas. Alors, je me suis tourné à nouveau pour faire face au sol, en mettant une jambe en avant et en poussant contre le sol avec tout ce qui me restait de force, jusqu'à ce que finalement, je me tienne debout, avec de nombreuses égratignures sur le dos, sur ma poitrine, mes fesses, mes jambes, mes mains. Un soldat israélien m'a enlevé le bandeau des yeux par derrière. Pendant quelques secondes, il n'a pas été facile de faire face à la lumière du jour. Un autre soldat israélien se trouvait devant moi. Il pointait son arme sur mon visage et il m'a dit d'un ton sec « Vous allez marcher vers la rue Ar-Rachid, la rue de la mer, et vous marchez, marchez vers la zone centrale. Marchez et surtout ne vous arrêtez pas. Marchez et ne regardez pas derrière vous. Pas une seule fois. Marchez, marchez, jusqu'à ce que vous atteigniez le camp de Nursirat. Allez, allez-y !» Il était évident qu'il n'y avait aucune possibilité de discuter, ou même de demander quoi que ce soit, ni sur ma famille, ni sur ma maison, ni sur mes vêtements, ni même sur les menottes en plastique qui m'enserraient les mains. Il y a 13 kilomètres entre ma maison et le camp de Nusayrat. J'ai commencé à marcher. J'ai marché sans rien d'autre autour de moi que la destruction, les bâtiments bombardés, les maisons détruites, les routes déracinées, les fuites d'eau, les égouts partout, les chiens et les chats, et de temps en temps, les cadavres humains dans les rues, certains avec des chiens sur eux. Oui, j'ai marché, nu, dans le froid. La pluie a été forte pendant 15 minutes, puis elle est devenue légère, puis la pluie s'est arrêtée. Je voulais essuyer l'eau de mes yeux et de mon visage, mais je ne pouvais pas, avec mes mains menottées derrière moi. J'ai marché encore et encore, marché, passant de temps en temps devant des véhicules blindés et des chars israéliens. La nuit est tombée, il faisait sombre. Je voyais à peine où poser mes pieds. Mais j'ai marché, je n'avais pas d'autre choix, marcher. J'ai commencé à penser. Bon, je suis vivant. Ils ne vont pas me tirer dessus. Ils l'auraient déjà fait s'ils voulaient me voir mort, n'est-ce pas? Mais où est ma famille? Où est ma femme et où sont mes enfants? Sont-ils toujours à Gaza? Ont-ils été autorisés à rentrer à la maison? Ont-ils été forcés de marcher comme moi jusqu'à Nusayrat? Mais si oui, où irait-il? Nous, dans la famille, personne ne connaît personne en dehors de la ville de Gaza. Il était 21h, quand j'ai vu, à l'horizon, la forme d'un homme qui venait vers moi. J'avais déjà dépassé la vallée de Gaza. Je suis près de Nusayrat, à environ 1 kilomètre. L'homme s'est approché de moi. Alors je suis tombé, littéralement tombé entre ses bras. Deux autres hommes nous ont rejoints. Ils m'ont détaché. L'un d'eux avait un manteau et il me l'a mis sur mon dos. Je voulais pleurer. Je cherchais des larmes pour pleurer. J'essayais de m'entendre pleurer, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Je pense que je pleurais à l'intérieur de moi. Mes larmes tombaient à l'intérieur de mes yeux, au lieu de tomber à l'extérieur. Ça brûle. J'ai senti que ça brûlait comme l'enfer. Ils avaient une petite voiture. Ils m'ont mis sur le siège avant. Et nous avons roulé pendant 5 minutes. Nous avons atteint une école, un abri. Un abri où ils m'ont donné quelques vêtements. Puis ils ont apporté de la nourriture, mais je ne pouvais pas manger. Ils ont insisté, mais je ne pouvais vraiment pas manger. J'ai demandé des nouvelles de ma famille, de ma femme, de mes enfants. Ils n'ont pas reconnu les noms. Peut-être que ma famille est rentrée chez elle. Comment puis-je le savoir? J'ai demandé un téléphone portable pour aller appeler ma femme. Alors j'ai essayé, encore et encore et encore et encore, mais ça ne marche pas. Je ne savais pas quoi faire. Alors, ces hommes m'ont emmené à un endroit, sous une tente, au milieu de la cour de l'école. À l'intérieur de la tente, il y avait déjà 4 hommes. Ils m'ont souhaité la bienvenue. Ils m'ont indiqué un matelas que je pouvais utiliser pour dormir. Là, je me suis allongé. J'ai dormi. J'en suis au 5e jour dans cette école, sous la tente. 5 jours à essayer de trouver ma famille, à essayer d'appeler. Je suis allé dans toutes les écoles de Nusayrat, de Dir El Balla, de Sawaïda, de Sawarha, à la recherche de mes enfants, de ma femme. Je ne les trouve pas. Je suis allé au centre d'opération de l'UNRWA, le centre pour les réfugiés. Je me suis adressé à plusieurs ONG. J'ai appelé le Comité international de la Croix-Rouge, mais je ne trouve toujours pas ma famille. Je ne sais pas s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Demain, oui, j'irai à Rafah. J'irai à la recherche de ma famille parmi les 1 300 000 personnes qui s'y trouvent. S'il vous plaît, priez pour moi, afin que je les retrouve. Priez pour leur sécurité. S'il vous plaît. Vous venez d'entendre la 76e lettre reçue de Gaza, reçue dans la boîte aux lettres du Théâtre du Tiroir, reçue de la part des comédiens qui ont travaillé, sont venus à Laval régulièrement depuis 23 ans. Ossam El Madoun publie chaque jour son carnet de bord. Vous pouvez retrouver toutes les lettres de Ossam El Madoun, tout son carnet de bord, sur le site internet Histoire Ordinaire. Ainsi se termine le 10e épisode des Lettres de Gaza. Prochain épisode, lettre de Ali Abou Yassine, comédien palestinien venu en février 2023 au Théâtre du Tiroir. Prenez soin de vous et que cesse le feu pour que vive la paix.